un seul. Le jardin, c'était ça. Cet arbre.
Donc, je suis Jean-Philippe Cassard, habitant du quartier des Fleurs à Ronchin, et j'habite avenue des Roses. Et j'accueille deux artistes, Linda et Fabien, qui ont intitulé l'œuvre créée spécialement pour les Maisons Folles, avenue des Roses.
Alors, on va les écouter dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le projet de ce quartier des Roses, hein, puisqu'il y a beaucoup de noms de fleurs aussi dans ce quartier des Fleurs?
Alors, dans le quartier des Fleurs, effectivement, il y a la rue des Fleurs, l'avenue des Roses, la rue des Bleuets. Voilà.
Donc, c'est à Ronchin et les habitants ont convenu de mener ensemble un projet?
Alors, il y a... Alors, je ne saurais plus dire exactement combien d'années, mais je crois qu'on... il y a donc un artiste qui a proposé à l'association de quartier, Idées en Fleurs, d'organiser une sorte d'exposition d'art contemporain où les personnes, enfin les habitants, ouvrent leur maison à des artistes et donc les gens peuvent venir rencontrer les artistes chez des habitants.
Donc il y a quelques années, on a connu les fenêtres qui parlent, je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Hein. Oui, oui, alors ça existe toujours. La grosse différence, c'est que les fenêtres qui parlent, en fin de compte, on circule dans la rue et on ne rentre pas dans les maisons. Et les artistes ne sont pas présents, mais ça dure plus longtemps. Alors qu'ici, ça dure un week-end, deux après-midi. Mais il y a une rencontre réelle possible avec les habitants et les artistes.
Donc c'est un événement annuel, hein, depuis combien de temps?
Alors, le nombre d'années, je ne saurais pas dire. Ça a dû commencer vers 2010, à mon début, 2010 ou 2011.
Et pourquoi à Ronchin, alors?
Alors, simplement, c'est l'initiative d'un artiste qui habitait le quartier et qui faisait partie de l'association, qui avait vu dans un autre quartier, je crois, à l'Homme, une initiative qui a duré une seule année, et il a trouvé que c'était génial et il a voulu la dupliquer. Voilà. Et donc là, au début, les premières éditions, c'était tous les ans. Et puis, c'est très, très lourd quand même au niveau organisation matérielle. Et donc là, maintenant, il y a une édition tous les deux ans.
Donc là, vous avez regroupé, réuni, enfin individuellement d'une certaine manière, dans chaque maison qui propose son accueil, des artistes très intéressants, très singuliers parfois.
Ah, tout à fait, oui, oui. Ce qui est très riche, c'est la diversité des propositions. Hein, et surtout aussi le travail qui est fait par Nicolas Tourstel, qui coordonne d'un point de vue artistique l'événement, en fin de compte, choisit l'artiste pour une maison donnée. Il connaît bien les habitants et donc il y a une sorte d'association qui est créée en fin de compte entre un artiste et une maison et ses habitants. On voit que l'artiste il s'intègre en fin de compte aussi dans l'environnement de l'habitat, de la maison dans laquelle il vient être invité.
Alors, c'est vrai que ça ne dure que deux jours, j'allais dire malheureusement, hein. Donc c'est difficile a posteriori d'amener les gens, sauf dans deux ans.
Ou dans deux ans, voilà. Donc soyez attentifs, dans deux ans, il y aura des maisons folles dans le quartier des Fleurs à Ronchin et on sera très heureux de vous accueillir.
Alors, Fabien Chalon, plasticien, et j'ai l'honneur d'être le mari de Linda Tulou. Donc, pour ce projet, on est venu repérer et on savait qu'on était dans une maison avenue des Roses. Et ça nous a beaucoup, beaucoup ému comme titre, comme nom de rue. Et on a décidé de faire une œuvre qui s'appellerait Avenue des Roses. C'est beau quand même, c'est un poème en soi. Et donc on a fait un travail en commun, parce que c'est une œuvre tout à fait commune. C'est la première fois qu'on fait une œuvre commune, tous les deux. Et qu'est-ce que l'Avenue des Roses? Voilà.
Donc l'avenue des Roses abrite des lieux secrets, hein, notamment cette maison qui présente des œuvres et des artistes.
Alors moi c'est Linda Tulou, je suis photographe, enfin photographe plasticienne, parce que c'est vrai que j'aime bien penser l'image un peu plus loin qu'une simple photographie, notamment dans un travail que je présente ici de Polaroid auquel j'ai mis feu. Et puis il y a cette œuvre commune dont Fabien a parlé, Avenue des Roses, avec une vidéo et des voilages et des forêts. Et c'est vrai que c'est le jardin de cette maison nous a tellement émus que voilà, c'est l'espace qu'on a eu envie d'investir.
Alors c'est vrai qu'on a un magnifique cadre pour présenter une vidéo qu'on peut peut-être décrire.
Bah pour moi c'est un poème en fait cette vidéo, une sorte de haïku. C'est 2 minutes avec une bougie qui tourne et des arbres et y a une voix qui parle de jardin, de qu'est-ce qu'un jardin et des arbres qui volent, qui dansent, du vent.
Et puis donc dans l'espace, on va dire, d'accueil, il y a des photographies, enfin on peut dire des reproductions dans une autre échelle de photographies plus petites qui ont été brûlées.
Oui, ce sont des Polaroids qui sont passés à la flamme.
Au départ, c'est une vengeance ?
Une vengeance ? Non. Non, j'ai à me venger de rien. C'est creuser les mystères.
Donc effectivement, le fait de les brûler, pas forcément entièrement, mais de les restituer sur une échelle plus grande, ça en fait apparaître plus que des détails, veut dire des traits importants.
Bah, je trouve, j'aime bien le Polaroid original parce qu'il devient, avec la brûlure, presque une sculpture. J'aime sa déformation, comment il a... Pour moi, il est presque vivant, comment il a réagi au feu. Mais c'est vrai que ces agrandissements permettent de voir d'autres choses. Des trouées, des couleurs, des bulles aussi. Enfin, voilà, tout ce que le feu a formé en se mélangeant à l'image, à la chimie.
Donc vous en avez sorti, vous allez en sortir un livre, un ouvrage ?
Oui, il y a un livre qui sort le 3 octobre avec l'éditeur André Frère, qui est designé par Rudy Bohr, avec un texte merveilleux aussi de Colin Lemoine. Et voilà, il est déjà en pré-vente sur le site de l'éditeur et on l'imprime prochainement.
Il a un titre ?
Il s'appelle Brûlure.
Brûlure, voilà. Donc c'est vrai que moi je les vois là, hein, au mur, on va dire c'est une présentation verticale. Après avec le livre, chacun met ça comme il le souhaite. Il y a une appropriation différente.
Dans le livre ? Oui, puis on est vraiment rentré aussi. Il y a aussi des paysages, il n'y a pas que ces polaroïdes avec des corps, il y a aussi des paysages, il y a aussi des détails de peinture, parce que c'est vrai que je passe du temps à regarder des peintures, à aller dans les musées, ça m'inspire énormément. Donc j'avais envie que ce soit présent, on a réussi à mélanger tout ça. Et puis il y a un livret où on retrouve les polaroïdes en taille originale, voilà, qui permet de comprendre ce qu'on a vu avant et ce qu'on voit après dans le livre, mais sinon on rentre dans les images.
Voilà, donc un univers, celui, on va rappeler les noms.
Linda Tulou et Fabien Chalon.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, moi je suis Yousra Mojtahedi, je suis une artiste iranienne, puis je viens d'Iran. Je présente ici une installation hybride qui est construite avec plusieurs sculptures en céramique et aussi en verre. Il y a un mouvement dans cette installation grâce à la vapeur, la brume, qui crée une sorte de paysage un peu post-apocalyptique, un peu aussi méditatif. Donc, qui invite les spectateurs à méditer, à se poser quelques secondes et s'interroger par rapport à un corps hybride, un paysage qui est devant nous.
Apocalyptique, est-ce que ça se raccroche à quelques scènes de science-fiction ?
Oui, tout à fait. En fait, ce corps qu'on voit un peu décortisé, un peu, on voit des organes un peu qui sont inertes, qui sont, on dirait que c'est des formes minérales. Et en même temps, ça nous rappelle un peu des organes très organiques de l'humain. Donc, c'est un peu mélange de tout ça. Et c'est comme si on était transporté dans un autre espace-temps, dans le futur, qui est un peu plus poétique.
Donc ce nouvel espace, on va dire espace-temps, apocalyptique, il est plus de l'ordre du cérébral que du physique.
Tout à fait. Qui nous invite à réfléchir, à sentir une autre manière et aussi réveiller nos sens peut-être. Parce que quand on est en face de ce corps, un peu ce paysage, on entend les sons, les chuchotements, on entend l'eau qui coule et on n'est pas habitué à voir, à se poser et sentir une autre manière.
Donc la voix, c'est ce qui reste à entendre, c'est ce qui reste d'humain dans ce paysage.
Oui, tout à fait. C'est un souffle, c'est le souffle de la femme qui donne la naissance. D'ailleurs, quand on voit, il y a le liquide blanc qui est en mouvement dans cette installation, il y a un rapport aussi avec le corps, avec les liquides corporels, le lait, la naissance, le plaisir, et donc ça nous rappelle aussi ce pureté, la naissance et le ce souffle parle de ça aussi, le souffle féminin.
Et donc donner une naissance dans un monde qui n'est plus humain ou qui n'a plus rien d'humain comme support, comment ça fonctionne ?
Il y a une présence humaine qui reste. Donc, on ne voit pas humain son corps, on ne voit pas vraiment son physique tel qu'on connaît. Mais par contre, on sent sa présence d'une autre manière. C'est là où on rentre dans la poésie. Donc, ça nous laisse imaginer une autre forme ou une autre style ou une autre mode de humain.
Donc la poésie, une autre forme de vie ou de survie?
Les deux. Parce que je pense que l'un sans l'autre n'a pas de sens, comme la vie sans... j'ai pas envie de dire la mort, mais une sorte de construction et destruction sont toujours ensemble. Donc la naissance et la destruction se présentent toujours ensemble. La lumière et l'ombre sont ensemble.
Donc, dans votre travail, il y a toujours cette notion, on va dire, quelque part, l'humain en tant qu'essence, mais peut-être aussi en tant que déliquescence.
Oui, on peut imaginer ça.
Et donc, d'une manière globale, vous vous sentez plutôt positive ou vous avez une approche... un imaginaire plus sombre sur l'avenir du monde?
Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans mes installations, quand je présente une sorte de futur, en fait, parfois, on voit que, oui, tout est détruit, Et, mais par contre, à partir de ces matières mortes ou détruites, et ben en fait, il y a une autre sorte de vie, une autre forme de vie et, qui commence à se germer. Donc, il y a toujours cet espoir. D'ailleurs, le souffle, quand on entend, on voit aussi dans la brume qui jaillit de cette sculpture, parle de ça, le mouvement, l'eau, le liquide qui coule, la terre qui est là. Donc, j'ai l'espoir, mais après c'est intéressant parce que on pourrait s'interroger sur notre comportement, on pourrait imaginer un futur, comment le futur pourrait se ressembler avec nos comportements d'aujourd'hui. Donc c'est des alertes, je pense, grâce à l'art.
Donc le souffle ici, c'est l'énergie vitale.
Oui, c'est le souffle, c'est la vie, c'est ce qui permet d'être existé et d'être vivant.
Et ce souffle exprime des mots, alors je n'ai pas tout compris, peut-être quelques clés de traduction ?
Alors c'est une poésie en persan, c'est découpé un peu, les mots sont découpés et ça a créé une autre sorte de poésie. Même moi, quand j'entends en persan, je comprends pas trop. Justement, c'est ça qui était intéressant, de enlever ces frontières et de dire en fait le langage, la langue, finalement n'a pas de sens, puisque même si on est français ou on rentre dans l'espace, on entend ce son, ces chuchotements, on sent la même chose que moi en tant qu'iranienne ou l'autre en tant que d'autres origines. Donc finalement, la langue, est-ce que a une importance au... Je pense que pas. C'est la sonorité qui devient plus importante.
Voilà, donc le son en tant que vibration qui nous met sur la même longueur d'onde, a priori.
Tout à fait, puisque nous ne sommes qu'un. On est humain, peu importe quelle partie de cette terre, même des animaux, même des plantes, finalement, nous faisions partie d'un seul élément dans cet univers, d'un seul point. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait, il n'y a pas de frontières et c'est ça que j'ai envie de montrer aussi sur ce paysage un peu hybride, qu'en fait il n'y a pas de frontières, donc entre les formes, entre nous et ce corps aussi qui est devant nous.
Voilà, donc la vie peut être davantage mise en avant que l'humain.
Est-ce qu'on pourrait se séparer? On pourrait pas, je pense que humain sans vie, ça n'a pas, peut-être n'aura pas de sens. Peut-être la vie, à partir du moment où on pense à ce mot, que ça commence à se créer. Donc je pense que la vie existe puisque nous, on existe, et aussi à l'inverse.
Donc voilà, on s'embarque donc dans un monde hybride, complexe de toute façon.
Et pas trop complexe, peut-être. Plutôt, on doit se laisser un peu transporter par des mots, par la poésie, par l'imagination. On en a besoin aujourd'hui pour sauver ce monde qui devient très dur et que on met les frontières pour se séparer.
Par l'imagination aussi, peut-être la méditation, on ressent des vibrations, des ondes qui peuvent peut-être nous correspondre.
À partir du moment où on se pose, on réfléchit, on commence à voir le monde autrement, donc on laisse la porte ouverte et du coup l'imagination arrive, la poésie arrive et donc on pourrait voir le monde autrement.
Voilà, merci pour cette immersion dans une habitation humaine.
Merci beaucoup, merci pour votre visite.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Donc voilà, vous accueillez ici l'œuvre d'une artiste et l'artiste.
Oui, tout à fait.
Comment s'est fait cette proposition ?
Alors, par contre, ça tombe mal parce que c'est pas moi personnellement, c'est mon fils en fait qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc en fait, je pense qu'on lui avait demandé, il était ravi d'accepter. Malheureusement, il n'était pas présent ce samedi. Par contre, il le sera demain. Voilà, il était content de participer à la vie du quartier, et voilà, et d'accueillir des artistes aussi bien sûr.
Donc en l'occurrence, c'est vous qui servez de guide d'accueil.
Cet après-midi, tout à fait. Absolument. Et
quelle est votre impression déjà par l'accueil de l'œuvre, de l'artiste, votre relation peut-être ?
Bah écoutez, elle est charmante et ça se passe très bien en fait, voilà.
Et vous avez eu de cette œuvre une vision particulière ?
Bah écoutez, on a trouvé ça, ma sœur et moi qui est avec moi, très original en fait. Ça sort vraiment de l'ordinaire et voilà, que dire d'autre ? Bah les dessins sont magnifiques également, voilà, il y a beaucoup d'originalité.
Et le fait d'accueillir aussi des personnes, des visiteurs ?
Bah, ça m'est très agréable de voir du monde et des gens charmants qui sont ravis de découvrir des œuvres d'artistes et en même temps découvrir des maisons aussi de quartier en même temps.
Donc c'est un quartier qu'on dit des fleurs, il y a des noms de fleurs à toutes les rues.
C'est ça, absolument, tout à fait.
C'est une fois tous les deux ans, on va dire, l'occasion de faire vivre une certaine
manière.
Absolument, tout à fait, de rencontrer les voisins et les gens du quartier.
Et donc vous êtes ici en visite, je ne sais pas, en repérage ou juste pour apprécier les œuvres dans deux ans ?
Exactement, dans deux ans.
J'ai envie de dire,
merci beaucoup, bonne soirée.
D'abord, avant tout, comme visiteur, puisque j'ai eu l'occasion, pas toutes les années, mais d'y venir précédemment, et j'apprécie beaucoup ce concept, une combinaison entre ces maisons de quartier, qui certes peuvent avoir des façades qui se ressemblent et qui ont leur intérieur à eux, et qui accueillent les artistes et qui s'y intègrent. Donc ce rapport de va-et-vient culturel et social, entre les maisons, retour à la rue, rentrée, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le concept. C'est à la fois une balade qui se fait sur un périmètre quand même restreint, facile d'accès à pied, et qui détend, hein, qui détend d'une manière générale, qui permet bien évidemment redécouverte pour des artistes que je connais. Moi, je profite aussi à chaque fois pour remercier les habitants qui accueillent. Donc,
Et qui accueillent des artistes qui viennent parfois de loin travailler et exposer.
Tout à fait.
Hein. Donc c'est le cas ici. Hein.
Pour Yoshra, qui vient d'Iran, qui est installé quand même sur la métropole, on peut dire que c'est le cas. Avec mon petit accent québécois, basé aussi sur la métropole, je contribue à ce côté un petit peu international. Et puis, j'ai fait des découvertes d'artistes de Marseille, de Paris, de Corée, que je ne me trompe pas. Voilà.
Donc, c'est vrai qu'ici, on est sur des lieux d'accueil éphémères, hein, mais dans la métropole, il y a beaucoup de lieux intéressants, comme le bar, par exemple, le BAR.
Le bureau d'art et de recherche à Roubaix, c'est un lieu où, personnellement, je suis impliqué en tant que membre qui s'occupe surtout du développement international, justement. Donc, je mets à profit plutôt mes compétences pour développer des relations d'échanges entre artistes et structures, notamment avec des pays limitrophes, avec aussi depuis quelques années on participe à une foire à Athènes qui s'appelle Platforms Project, qui est spécialisée dans les entités à but non lucratif, ce qui est le cas du bar, ce qui est aussi le cas de cette manifestation des maisons folle. Donc pour nous c'est une façon de générer de la mise en réseau des artistes et de aussi permettre des découvertes pour le public. Donc à l'instar de l'exposition qui s'intitule Road Trip actuellement et qui se termine donc samedi prochain le 8 juin. Qui nous permet d'accueillir des artistes suisses qui ont peu ou pas exposés en France d'une manière générale et qui se combinent à la fois avec des artistes plutôt de la région des Hauts-de-France, ce qui permet de générer des échanges, permettre des découvertes du public. Donc c'est un peu de cette façon que nous travaillons.
Voilà, donc le bureau d'art et de recherche à Roubaix, pas loin de la gare en fait, l'adresse exacte ?
C'est 112 avenue Jean Lebas, près de la gare, donc métro gare Jean Lebas à Roubaix.
Les Maisons Folles, un reportage de René Lavergne.